Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie mondiale, le samedi à la radio et le reste de la semaine sur les réseaux sociaux. Le compte RFI Echo, nouvelle saison d'Echo d'ici. Echo d'ailleurs, toujours le décryptage de l'actualité économique avec les meilleurs experts dans leur domaine, les spécialistes de RFI et quelques nouveautés que vous découvrirez au fur et à mesure. Une émission d'actualité, les grands sujets de la semaine d'abord et une seconde partie avec un grand invité, acteur de l'économie mondiale, à qui nous demanderons de réagir aux derniers événements et à qui nous laisserons aussi le temps d'expliquer sa stratégie, sa vision. Beaucoup de place pour les reportages de nos correspondants partout dans le monde. Ils observent au quotidien celles et ceux qui font vivre les entreprises, le commerce qui innove d'un point de vue technologique vers une économie plus dynamique, plus solidaire, respectueuse de l'environnement, en résumé, la planète économie. Et j'imagine que vous voulez connaître le sommaire de votre nouvelle émission. On va d'abord parler du lieu où se joue la santé de beaucoup d'entre nous, particulièrement en ce moment avec la pandémie de Covid-19. L'hôpital, dans quel état économique se trouve-t-il? Parfois saturé de malades, souvent dépourvu en ressources financières. Nous serons en France, aux États-Unis et à Madagascar. On posera toutes les questions qui s'imposent à Karine Milsand, docteur en économie de la santé. Bonjour Karine Milsand.
Bonjour.
L'un des temps forts de l'actualité de la semaine, c'est aussi le football et le mercato d'été qui a connu ses derniers rebondissements. Messi, Ronaldo ont changé de club, mais pas Mbappé. Le PSG, plus riche que jamais, quid du fair play financier? Comment les fonds d'investissement pourraient à l'avenir dominer l'univers du ballon rond? L'économiste Luc Arondel sera avec nous. Et puis, notre grand invité, avec qui nous parlerons aussi de santé mondiale, en l'occurrence de la vaccination, Franck Grimaud, directeur général de Valneva, laboratoire franco-autrichien qui espère rejoindre très bientôt les géants du secteur. Il bat déjà des records à la bourse de New York. Voilà pour le menu, c'est parti.
Le manque de personnel qui était insuffisant avant même l'arrivée de Covid. Et Covid est venu encore aggraver ce problème.
L'inquiétude d'un agent de santé cette semaine au Togo, un rassemblement pour dénoncer le manque de moyens dans les hôpitaux du pays. Au Togo, comme ailleurs, l'hôpital tellement mis à l'épreuve par cette épidémie, mais ces mots, M-A-U-X, sont certainement plus anciens. Certes, les situations sont très différentes selon le niveau de développement des pays, mais il y a partout la même contrainte budgétaire qui s'impose aux établissements publics de santé. Pour aller plus loin que le constat, Karine Milsand est donc à mes côtés. Je vous présente. Économiste, spécialiste des systèmes de santé, chercheur au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu en Chine, aux États-Unis ou encore en Suisse et maintenant vous êtes en France. Mon prédécesseur Jean-Pierre Boris vous avait déjà invité sur ce sujet en avril 2019, il y a 2 ans et demi. On parlait déjà des inquiétudes des salariés des hôpitaux publics partout dans le monde. Est-ce que ça s'est aggravé fondamentalement avec le Covid-19?
La charge des patients a forcément pesé sur le personnel hospitalier. Ils ont vécu une période de travail intense et en fait, ça ne s'est jamais totalement apaisé pour eux puisqu'ils ont toujours la charge des patients non-Covid qui, eux, ont été moins pris en charge, voire pas pris en charge durant la première phase de confinement. Et donc, de ce fait, il est évident que non, la charge de travail ne s'est pas allégée pour le personnel hospitalier.
Et pour les établissements hospitaliers, est-ce que la situation financière s'est aggravée?
La situation financière ne peut que s'aggraver dans le sens où ils ont subi de plein fouet la crise financière à un moment où ils étaient, où on était au milieu du guet dans une modification en fait du système de santé français. On en parlera après, tournant ambulatoire. Et donc, ayant à prendre en charge des patients qui demandaient des soins médicaux importants sur longue durée, ils ont une situation financière qui forcément en apathie.
Alors, vous avez déjà abordé le cas français. Bonjour Alexis Bédu.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Journaliste au service économie de RFI, vous vous êtes rendu à Strasbourg, près de la frontière allemande, là où l'épidémie de Covid a flambé tout au début. Vous êtes allé dans le plus grand établissement de santé de la région Grand Est, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont également les plus déficitaires de France. On parle d'une dette colossale pour ce seul établissement, 500 millions d'euros.
Oui, 500 millions d'euros, ça c'est l'emprunt à rembourser. Et puis il y a ce déficit structurel important, plus de 70 millions d'euros prévus cette année. L'établissement est pris à la gorge, plusieurs raisons à cela, de nombreux investissements ces 20 dernières années, des aides de l'État qui n'ont pas suivi, et puis la crise sanitaire qui a fait mal aux finances des hôpitaux de Strasbourg. Ça se poursuit encore aujourd'hui, c'est ce qu'explique le professeur Emmanuel Andrès, président de la commission médicale d'établissement.
Les mesures Covid, quand même, maintenant, elles sont un petit peu moins remboursées. Le CHU est obligé de les payer, voilà, au départ, la première année, tout était remboursé. Voilà, maintenant, c'est plus le cas. Par exemple, vous savez qu'il y a un pass sanitaire. Et donc, par exemple, on est obligé de faire appel à une équipe de vigile pour sécuriser les sites, vérifier le pass sanitaire, déployer des mesures pour faire des tests. Tout ça, c'est 20 000, 30 000 euros par mois. Et vous rajoutez comme ça un certain nombre de dépenses et vous arrivez tout de suite à des sommes assez conséquentes.
Alors, la situation économique des hôpitaux strasbourgeois préoccupe la communauté médicale. Un hôpital endetté, c'est un hôpital qui n'a pas de projet et qui régresse médicalement parlant. C'est également un hôpital qui n'attire plus et qui perd ses médecins, ses infirmiers, ses assistants sociaux.
S'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'attractivité, je crains que finalement on n'arrive pas à recruter et qu'on n'arrive pas à générer finalement des nouvelles ambitions, des nouveaux parcours. Voilà, donc c'est très important. Si la qualité de vie au travail se dégrade, c'est pareil, c'est des critères d'attractivité qu'on perd et donc le risque, c'est que les gens ne restent pas chez nous.
C'est exactement ce qu'il se passe en ce moment à Strasbourg. Marc est infirmier, également engagé dans le syndicat CFTC. Et c'est une colère froide qui le prend quand on lui tend le micro et qu'il parle de son quotidien dans les hôpitaux strasbourgeois.
L'hôpital public est en train de s'effondrer. J'ai vu des collègues partir. Au début, c'était des collègues qui partaient en retraite qui n'étaient pas remplacés. Maintenant, c'est des collègues qui partent qui sont dégoûtés du système. On a encore des gens qui sont payés à 80% et qui on oblige à faire un 100%. On a des gens qui font 3-4 week-ends d'affilée, puis quand le cadre dit t'es pas content, t'as qu'à partir. Oui, l'attractivité, elle est où l'attractivité? Donc tout le monde, moi y compris, on est en train de regarder s'il n'y a pas autre chose mieux ailleurs. Et on fait comme tout le monde, on ira bosser en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, si c'est nécessaire, on est frontalier. Donc si on peut partir, on partira.
Elle a une nouvelle vague de ras-le-bol chez les soignants. Trop de pression, pas assez de moyens. À l'épuisement succède le découragement total dans certains services, Bruno.
Karine Milsan, envie chez les personnels hospitaliers français d'aller travailler ailleurs, chez les voisins. C'est mieux ailleurs ?
C'est mieux ailleurs. Alors déjà, il y a différents niveaux de conditions de travail. Ça dépend si vous travaillez dans un hôpital public ou bien alors un hôpital privé. Vous n'avez pas les mêmes conditions de travail. L'hôpital public est effectivement totalement contraint. Mais il l'est parce qu'en fait, avant la crise sanitaire, il y a toujours d'ailleurs cette volonté de transformer le système de santé pour avoir un système moins basé sur l'hôpital, de faire l'hôpital un centre technique. Et du coup, les patients ont moins de nuitées et poursuivent leurs soins à domicile. De ce fait, il y avait moins besoin d'une structure hospitalière. Mais il se trouve que la crise sanitaire nous est arrivée au moment où on était dans cette transformation du système, où on n'avait pas encore cette continuité des soins entre l'hôpital et la ville. Et donc, la crise sanitaire, elle signifie quoi concrètement? Elle signifie qu'il faut garder le patient dans le lit pour le soigner. Il faut des soins médicaux. Et donc, l'hôpital s'est retrouvé dans une situation où il avait moins de personnel parce qu'il était dans ce tournant, alors qu'il avait encore plus besoin de personnel pour faire face à cette crise sanitaire. Et ce personnel se retrouve aujourd'hui, non pas dans une crise sanitaire qui a duré 3 mois, mais qui dure maintenant presque, on arrive à plus d'un an et demi de crise sanitaire. Donc la charge de travail devient beaucoup trop lourde dans une situation où il n'y a pas les finances pour avoir davantage de personnel. Et ce n'est pas seulement le salaire, c'est également les conditions de travail, la charge de travail qui ne correspond pas à ce pourquoi ils ont signé au départ.
Alors, il y a tout de même eu une prise de conscience, Alexis. Des annonces ont été faites cet été par l'Agence régionale de santé. Des crédits ont été débloqués.
Oui, le Ségur de la santé est passé par là. Les hôpitaux universitaires strasbourgeois devraient obtenir une aide de l'État de 220 millions d'euros, une somme allouée quasi uniquement à la reprise de la dette. Selon le professeur Emmanuel Andrès, il y a un tel retard dans les investissements que le Ségur de la santé ne pourra pas tout combler. Il ne pourra pas satisfaire tout le monde.
C'est pas suffisant, voilà. Je vais le dire ouvertement. Quand on voit les revalorisations salariales, si vous preniez les infirmières dans l'ensemble de l'Europe, la France était, je crois, 20e sur 27 pays. Donc le Ségur va faire qu'elles vont être 18e ou 17e, mais elles restent quand même très très loin des rémunérations moyennes. Le côté financier, on peut pas s'en abstraire, il faut en tenir compte. Il faut qu'on soit aidé pour sortir de la situation difficile dans laquelle on est. Mais, entre guillemets, on peut pas le faire à n'importe quel prix. On peut pas demander tout le temps. C'est des sommes considérables qu'on demande. On en est conscient.
Au-delà de combler la dette, l'hôpital public a besoin de dotations, disent à la fois syndicats et communauté médicale, le vrai argent budgétaire dont parlait Emmanuel Macron en mai 2020. Mais alors, où trouver ces ressources nouvelles pour l'hôpital ? À Strasbourg, dans les discours, une proposition revient : moins financer les établissements privés pour mieux investir dans l'hôpital public.
Merci Alexis. Les investissements, justement, Karine Milsan, on voit bien que le retard pris est très important et que les dettes qui s'accumulent empêchent justement cet investissement.
Et vous avez deux formes en fait. Vous avez la structure elle-même, hospitalière. Si vous considérez que l'hôpital n'est plus l'endroit où vous devez garder le patient sur long terme, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'une telle infrastructure. Donc, l'objectif est de réduire cette infrastructure pour limiter les taux de maladie nosocomiale, par exemple. L'individu et le patient pouvant rentrer plus tôt chez lui.
Les maladies qu'on attrape à l'hôpital.
Exactement, maladies qu'on attrape à l'hôpital. Et puis également, réduire les dépenses de santé. Il ne faut pas non plus se le cacher. Donc, si vous voulez, si on est dans ce tournant ambulatoire qui ne concerne pas que la France, qui concerne l'ensemble des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Si on est dans cette optique, donc on a vraiment cette mouvance, si vous voulez, avec l'innovation d'une nouvelle forme de prise en charge, où le patient, l'individu une fois malade qui a besoin d'une hospitalisation, va rester moins longtemps à l'hôpital. Vous avez une infrastructure nécessaire qui devient plus réduite, donc vous investissez moins. Là, c'est ce qui est évoqué, c'est-à-dire que avec la crise sanitaire, on a besoin de cette infrastructure, mais en même temps, on était dans une logique où on la réduisait. Donc là, il y a un problème. Le deuxième problème, c'est prendre en charge le patient, c'est-à-dire le coût du patient. Là, on n'est plus sur l'infrastructure, on est sur combien me coûte le patient et comment je le prends en charge. Et là, c'est aussi cette continuité des soins qui va permettre de résoudre la question. Et l'hôpital public et l'hôpital privé répondent aux besoins des patients, mais l'hospitalisation privée ne se pose pas sur le même segment des soins. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'actes très techniques, avec des équipements qui coûtent très très cher, eh bien ces équipements, vous allez les trouver dans les hôpitaux publics. Quand vous avez besoin de prendre en charge des patients qui demandent d'être soignés sur long terme pour du médical, l'hôpital public également. En revanche, l'hôpital privé va se trouver sur un segment où il faut un équipement pas si coûteux que ça et on va le soigner de façon technique. Il a l'avantage d'être très réactif, en termes d'innovation. Donc, dire qu'il suffit de prendre privé pour le public, ce n'est pas si simple parce que les deux sont payés de la même manière.
La complémentarité est nécessaire. On parle souvent de concurrence entre les hôpitaux, mais cette complémentarité, elle est nécessaire.
Exactement. Vous avez une forme de concurrence entre les hôpitaux parce que on ne prend pas suffisamment en compte que le type de patient ne va pas forcément être le même entre les structures publiques et les structures privées. Donc, sur le segment du privé, il rentre en concurrence avec le public. Mais il y a aussi toute une gamme, un secteur de soins dont on a besoin, qui nécessite l'hospitalisation publique.
Alors justement, sur ces problématiques, on va traverser l'Atlantique. Autre pays, autre système, bien plus libéral. Les États-Unis, où la situation sanitaire est de nouveau d'ailleurs en train de se dégrader. Bonjour Loubna Anaki.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante de RFI à New York. On sait que les hôpitaux américains sont majoritairement privés. Cette pandémie a révélé les inégalités et les failles du système.
Oui, c'est un fait. Se faire soigner aux États-Unis coûte cher, très cher même comparé à d'autres pays, notamment à la France. Des milliers d'Américains qui ont dû être hospitalisés à cause du Covid se retrouvent avec des factures exorbitantes et ce qu'ils appellent ici aussi des factures surprises. Les frais dont les malades n'avaient même pas conscience, comme des analyses dont ils n'ont pas été prévenus, un transfert en urgence en hélicoptère et d'autres. Le résultat de tout ça, c'est que de nombreux patients sont dans l'incapacité de payer, ce qui était déjà le cas avant la pandémie, mais c'est encore pire aujourd'hui, et les hôpitaux qui fonctionnent quasi uniquement grâce à ces revenus sont en crise financièrement.
Et certains établissements, Loubna, ont trouvé une solution, se regrouper, fusionner.
Oui, plusieurs groupes d'hôpitaux ont profité de cette crise pour en acheter d'autres et étendre le réseau, mais si ça leur permet peut-être d'éviter la crise financière, cela n'arrange pas du tout les problèmes qui rongent le système de santé, car cela renforce l'aspect de monopole. Et dans un pays où les frais de santé sont déjà très élevés, cela risque de faire encore plus monter les prix, vu qu'il y aura moins de concurrence. La qualité des soins en prend aussi un coup. C'est en tout cas ce que révèlent les études qui ont été faites sur ces fusions. D'ailleurs, dans certains États, les autorités ont tout simplement bloqué ces rachats, estimant justement que cela nuit au système de santé.
Karine Milsan, vous connaissez bien aussi le système américain. On vient d'entendre fusion, monopole, en tout cas moins de concurrence. La santé est un marché comme un autre. Comment vous analysez ce système américain ?
Alors, le système américain est très différent du système français puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de prise en charge du patient public, si vous voulez, sauf pour les patients âgés à travers le programme qui s'appelle Medicare pour les plus de 65 ans. Donc, quand vous êtes malade aux États-Unis, c'est votre assurance privée. C'est comme si en France, là, votre complémentaire santé, en fait, couvrait l'ensemble de vos soins. Et souvent, cette assurance privée est liée à votre employeur. On vous propose un panier, à la fois votre salaire et une assurance. De ce fait, quand vous avez un problème de santé, eh bien, votre couverture d'assurance va jouer à plein. Et donc, plus vous avez une assurance qui vous couvre bien, moins vous aurez dépenses de santé. Vous voyez bien, c'est assez intuitif, qu'en fait, plus vous êtes socio-économiquement défavorisé et moins vous aurez une assurance qui couvrira largement vos soins. Donc, ce sont les gens qui sont le plus en bas de l'échelle qui pâtissent le plus. En cas de crise sanitaire, c'est encore plus vrai.
Et alors, sur cette stratégie des hôpitaux, ces fusions des hôpitaux pour survivre financièrement?
Donc, comme je vous ai dit, du coup, comme il n'y a pas de sécurité sociale, les hôpitaux sont payés par les patients. Donc, si le patient n'est pas en situation de payer de l'hôpital, est en situation difficile, et pour avoir plus de force, en fait, ils peuvent se regrouper. Et plus vous avez, si vous voulez, plus il y a des rachats d'hôpitaux, plus la structure est à même à faire face à des problèmes de liquidité. L'inconvénient pour le patient, c'est qu'il n'est plus face à un choix. Il est face à un monopole, c'est-à-dire qu'il doit aller dans une structure qui appartient en fait au même ensemble. Et il ne peut pas non plus faire jouer la qualité des soins puisque ça appartient à la même ensemble. Donc il se trouve prisonnier et il subit totalement le prix qui lui est demandé sans avoir le choix d'une autre structure avec d'autres prix.
Donc une course à la rentabilité. Aux États-Unis,
au dépens du patient,
et qui existe ailleurs aussi sur les autres continents. On est dans les mêmes problématiques.
À chaque fois, quand vous êtes dans un pays où le marché de la santé, le marché des soins hospitaliers est un marché libéral, vous êtes dans ce même type de problématique. Et ça pose un vrai problème de qualité, puisqu'à partir du moment où vous pouvez plus faire jouer la concurrence, c'est-à-dire choisir un établissement au dépens d'un autre en fonction du niveau de qualité offert, eh bien, vous uniformisez la qualité, et cette qualité peut très bien être une qualité la plus basse, puisque pour l'hôpital, ça peut signifier d'avoir des coûts moins importants.
Alors, on va aller dans un tout autre système. Comme promis, on change de continent. Et nous voilà à Madagascar. Comment ce pays pauvre gère-t-il d'un point de vue hospitalier cette crise sanitaire? On sait que les problèmes d'équipement sont profonds. On sait aussi que pour les patients, accéder aux soins, c'est très difficile. Reportage de notre correspondante, Laure Verneau.
Madagascar compte 128 hôpitaux publics pour 26 millions d'habitants. Dans ce pays de 590 000 km² de superficie, aux régions enclavées par manque de routes, l'accès aux soins est compliqué. D'un point de vue pratique, il faut parfois marcher plusieurs jours, mais aussi financier. Le docteur Zou est médecin hospitalier, il est membre de l'Ordre national des médecins.
Les soins sont gratuits. Normalement, j'ai vu normalement, mais il y a toujours des exceptions, hein. Les médicaments, les consommables, puis aussi les analyses, les examens paracliniques qui amènent à la charge des malades. Et c'est ça qui bloque souvent donc l'accès aux soins au niveau des centres hospitaliers.
Les gens se rendent très peu ou souvent trop tard à l'hôpital. C'est le cas de Anna, aide-cuisinière et diabétique, hospitalisée en avril dernier d'une forme grave de Covid. Elle explique avoir attendu une semaine après les premiers symptômes, gorge sèche et fatigue. Anna ne s'est rendue à l'hôpital que lorsqu'elle n'arrivait plus à respirer. Pas de place dans le public. Dans la clinique privée, la journée coûtait 100 euros plus les médicaments. Ses employeurs l'ont aidée. Jerry Souralibert est le représentant du syndicat des paramédicaux de Madagascar.
Les principaux problèmes des hôpitaux face à la gestion du coronavirus, c'est le manque des ressources, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Donc l'insuffisance des médicaments pour les malades, l'insuffisance du personnel qui est ces derniers temps comblée par la contractualisation d'un prêt de milliers de personnels, mais ça ne suffit pas encore. Le manque de matériel, c'est déjà notre quotidien depuis des années et des années.
Les paramédicaux représentent 40% de l'effectif des hôpitaux. En plus de la pénurie de matériel, pendant la pandémie, ces derniers ont été payés avec des mois de retard, après plusieurs grèves. D'après la loi de finances rectificative, les dépenses d'investissement dans le secteur de la santé ont baissé d'un peu plus de 20% à Madagascar. Laure Verneau, Antananarivo, RFI.
Alors, la spécificité en Afrique, Karine Milsan, c'est aussi qu'on a ce qu'on appelle les dispensaires, qui sont un autre niveau de soins en plus des cliniques privées et des hôpitaux publics.
Oui, dispensaire posant la question en fait de la qualité, on y revient, de la qualité des soins offerts. Puisque ce sont des endroits, de par leur nom, hein, où vous allez avoir un niveau de qualification qui va être moindre que dans les hôpitaux, avec des conditions financières évidemment qui vont être beaucoup plus frustres, et avec un matériel qui va être quasi
manque
absent.
Manque d'équipement, on a entendu
voilà.
Ça pendant tout le reportage.
Et donc, pour prendre en charge le patient, le patient, il sait d'avance qu'il va être pas insuffisamment pris en charge, autant plus s'il est atteint d'une pathologie importante. Donc il va chercher à aller dans un hôpital performant et ça va signifier pour lui une perte de temps qui va jouer sur ses chances de qualité de vie, voire de mortalité.
Avant de se quitter, Karine Milsan, une dernière question. Pour faire des économies et pour mieux soigner, est-ce que l'avenir est à la e-santé, la santé à distance ?
L'avenir est à l'intégration de la e-santé. Ce n'est pas à la e-santé tous azimuts, c'est une e-santé qui doit être réfléchie et adaptée aux besoins du système.
Et ça peut marcher partout dans le monde.
D'ailleurs, ça c'est déjà
mis en place. Y compris dans des pays
moins
développés.
C'est déjà mis en place, c'est largement utilisé. Par exemple, si vous regardez le marché chinois. Ça ne signifie pas qu'il faut adapter exactement le même type de système, mais ça signifie qu'on est vraiment dans une ère où on s'appuie de plus en plus sur l'e-santé. Si vous prenez Amazon Care, par exemple, vous avez un bon exemple de comment est-ce que le système tourne vers l'e-santé pour le patient. Mais on peut aussi le regarder avec un œil critique, avantage, mais également inconvénient à ce type de système.
Le système de santé chinois que vous connaissez aussi très bien et qui pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Merci. Merci à vous, Karine Milsan, pour ces éclairages sur la situation économique de l'hôpital. Je cite un de vos ouvrages récents, Concurrence entre les hôpitaux. C'est aux éditions CEPREMAP. Et avant de passer à notre deuxième grand sujet du jour, un conseil d'écoute si vous vous intéressez aux énergies renouvelables sur RFI.fr. Le grand reportage de Paul Inglés à El Hierro, île espagnole des Canaries, qui multiplie les expériences pour mieux respecter l'environnement en utilisant le vent et l'eau. Un extrait.
Sur une petite île comme celle-là, qui est éloignée, marginalisée et oubliée par les administrations centrales des Canaries et de l'État, c'était enthousiasmant de parier sur une autosuffisance énergétique pour approvisionner la population et pour dessaler de l'eau. Voilà le dépôt situé en haut. L'eau qui vient d'en bas est stockée ici et là, elle redescend.
Là, est-ce qu'elle est en train de descendre ou de monter ?
En ce moment, cela monte et descend car il y a du vent et l'énergie va dans le réseau grâce aux deux systèmes.
con los dos sistemas. La electricidad del viento en la red.
Il n'est pas possible de faire entrer l'énergie du vent toute seule dans le réseau, car le vent est variable. Il n'y a pas de pression constante. Il lui faut un partenaire de danse qui le synchronise au système. Dans d'autres endroits, le vent est contrôlé par des centrales thermiques ou nucléaires, ou d'autres types d'énergie. Si on le laissait seul, cela ferait chuter le système. Il n'y a pas de garantie d'une fréquence constante.
Dompter la nature pour mieux la préserver. Grand reportage de Pauline Glaise sur le site et les applications de RFI.
Merci, 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 merci.
La joie des supporters du PSG dimanche dernier pour le premier match de Lionel Messi dans le championnat de France. La méga star du football argentin débarque en Ligue 1. Énorme salaire. Un peu à la baisse par rapport à ce qu'il touchait à Barcelone, mais surtout un énorme coût économique pour le club parisien et son propriétaire qatarien. Bonjour Luc Arondel.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'économie du sport et du foot en particulier. On va essayer d'analyser ce qui se trame actuellement dans ce secteur devenu majeur, notamment après ce mercato inédit. On rappelle que Cristiano Ronaldo, l'autre grande vedette, est parti à Manchester United et devient le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat d'Angleterre. D'abord quelques chiffres avec Altine Lazage du service économie de RFI. Bonjour Altine.
Bonjour.
Selon une étude de la FIFA, la Fédération internationale, les sommes dépensées par les clubs sont astronomiques.
En effet, selon les calculs de la FIFA, les clubs de foot ont dépensé un peu plus de 41 milliards d'euros au cours de la dernière décennie. C'est quasiment l'équivalent du plan du Fonds monétaire international pour mettre fin à la pandémie. Pour illustrer la progression du marché, je vous donne comme exemple deux chiffres. En 2011, les sommes des transferts ont atteint à peu près 2 milliards 400 millions d'euros contre plus de 6 milliards en 2019. Cette frénésie a été stoppé l'an dernier en raison de la pandémie qui a fragilisé les finances des clubs. L'étude de la FIFA nous apprend aussi que les 30 clubs les plus dépensiers de la planète sont européens. Ils représentent presque la moitié du montant total du mercato mondial sur la même période. En tête de classement, on trouve 12 clubs anglais. La crise du Covid n'a pas changé les habitudes. Le championnat d'Angleterre reste en effet le plus dépensier avec 7 des 10 transferts les plus coûteux de l'été.
Merci Altine. Luc Arondel, inflation continue des transferts depuis quelques années, malgré le fameux fair play financier. La question que tout le monde se pose, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, ni pour le PSG, ni pour les autres ?
Pourquoi vous dites que ça fonctionne pas ? Je pense que le foot, c'est une économie qui marche plutôt bien. Effectivement, ça se traduit par une hausse de ses revenus, avec aussi une évolution du marché des transferts qui est un petit peu parallèle, puisqu'il est très lié effectivement aux revenus des clubs de foot. Donc c'est une économie, enfin c'est jusqu'au Covid, c'était une économie qui était plutôt en pleine croissance avec
d'un point de vue économique, ça fonctionne. Après, beaucoup de gens disent ça augmente le fossé entre les clubs super riches et les autres. Le championnat de France est inintéressant parce qu'il y a le PSG et les autres sont trop loin derrière.
Ça, c'est une autre question. Après, effectivement, mais ça, c'est aussi des questions qu'on se pose dans la société en général, dans l'économie en général. On voit effectivement qu'il y a une hausse de revenus, mais qui s'est aussi accompagnée d'une hausse des inégalités entre, effectivement, les quelques gros clubs européens et puis beaucoup d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, il faut au moins avoir un budget de 400 millions d'euros, même si, et ça c'est ça qui fait aussi tout l'attrait du foot, toute l'incertitude du foot, vous pouvez avoir certains clubs qui apparaissent comme l'Ajax d'Amsterdam ou l'Atalanta Bergame qui effectivement font figure de petits poussets.
Et ça n'a pas empêché aussi un surendettement de certains clubs, c'est ce qu'on dit en Espagne.
Alors moi j'en parlerai pas surendettement puisque effectivement, si vous pensez à l'endettement du Barça, du Barcelone en particulier, c'est quand même Barcelone, normalement, avant la crise du Covid, espérait générer 1 milliard de revenus. Bon, effectivement, son endettement, c'est à peu près 1 milliard. Bon, enfin, sinon, on peut considérer que c'est beaucoup, mais aussi, je pense que c'était aussi basé sur le fait qu'il y avait des espérances de revenus qui étaient très fortes. Alors après, effectivement, toute la critique, elle est basée sur le fait, sur les dépenses, effectivement, qui seraient il y aurait une surdépense sur la masse salariale, mais ça c'est un petit peu inhérente au fonctionnement de l'économie du football. C'est un marché de, comme on dit, de main d'œuvre.
Alors justement, cette masse salariale, Est-ce que c'est au cœur d'une réforme du fair play financier qui est en cours?
Alors, d'après effectivement les dernières rumeurs, hein, la FIFA réfléchirait effectivement à réformer son fair play financier et de donner une limite de la masse salariale dire autour de 70%, c'est-à-dire que tous les clubs ne devraient pas dépenser plus que 70% de leurs revenus en masse salariale. Voilà. Donc ça c'est d'une certaine manière, j'appellerai pas ça du fair play financier, c'est simplement une règle de gestion, une règle financière un petit peu qui est un petit peu basée sur le bon sens, un petit peu le bon sens disons d'une gestion de bon père de famille d'une
un peu comme
manière.
En Amérique du Nord.
Alors pas du tout. Je pense que les gens se trompent complètement à ce niveau-là. Mmh. Si vous regardez ce qu'on appelle le salary cap dans les franchises, enfin dans les ligues américaines basées sur les franchises, c'est un montant absolu. Donc ça veut dire que vous avez une masse salariale qui est un montant absolu que vous ne devez pas dépasser. Limiter simplement la masse salariale à un pourcentage de revenus, c'est complètement différent, quoi. C'est simplement que vous pouvez, on rentre effectivement, c'est une autre version du fair play financier où vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez, quoi.
Alors pour améliorer les finances des clubs de football et des organisations, hein, est-ce qu'il faudrait faire appel à des fonds d'investissement et est-ce que ces fonds d'investissement s'y intéressent de plus en plus au-delà des quelques clubs que l'on connaît?
Alors, l'apparition des fonds d'investissement, c'est vraiment un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques années. Alors, pourquoi les fonds d'investissement commencent à s'intéresser au football? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, le football n'est pas une activité rentable d'un point de vue économique. C'est-à-dire que les clubs ne font pas de profit, même les plus gros que vous avez cités ne font pas de profit. Comme je le disais tout à l'heure, c'est finalement tous les revenus, la majorité des revenus vont dans la masse salariale. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on voit les fonds d'investissement qui apparaissent dans le football à travers l'achat de clubs. Ça s'est fait et notamment en France et aussi des clubs, pas forcément des premières divisions. Donc, effectivement, pourquoi les fonds d'investissement viennent dans le football? C'est que de toute façon, la logique d'un fonds d'investissement, c'est quand même de la rentabilité. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces fonds d'investissement espèrent une rentabilité dans le football qui jusqu'à présent n'a pas forcément de réalité. Alors une autre nouveauté, c'est effectivement le fait que maintenant les fonds d'investissement achètent des compétitions. Alors on en a parlé en Allemagne, ça s'est fait en Espagne, on en avait parlé en Italie et la France est prête aussi à accueillir des fonds d'investissement pour acheter, pour que les fonds d'investissement puissent acheter des compétitions.
Le championnat, par exemple. Enfin,
les ligues, oui.
Ça pourrait même être la Ligue des Champions, pourquoi pas?
Ah oui, pourquoi pas.
Qui, pour le coup, est une machine à cash.
La réforme, la réforme qui a été annoncée pour contrecarrer le projet de la Super League faisait intervenir des fonds d'investissement. Hein, donc, effectivement. Donc, ils achètent, alors pas forcément toutes les compétitions, mais une part de ces compétitions, et leur rentabilité est au prorata, effectivement, de leur investissement. Et ça, c'est vrai que dans les différents championnats, c'est uniquement lié au droit TV, puisqu'effectivement, c'est la valorisation de la Ligue, c'est à travers les droits télé. Donc, c'est vrai que ça pour l'instant, d'un point de vue conjoncturel, ça peut intéresser les clubs, puisque la plupart des clubs ont des besoins de liquidité. Donc, c'est vrai que vendre aujourd'hui une part des championnats donc au fonds d'investissement, ça permet d'avoir des liquidités à court terme. Est-ce que c'est un bon calcul à long terme? Ça, l'avenir nous le dira.
Merci Luc Arondez pour vos éclaircissements, professeur à l'école d'économie de Paris et spécialiste de l'économie du sport et du football. Une très courte pause avant notre grand invité. Le temps de vous rappeler que nous sommes sur Twitter et sur Facebook. Un seul compte, RFI Echo. Vous y retrouvez nos reportages, nos analyses. C'est aussi un espace qui vous est dédié pour commenter l'actualité économique, pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre pour nous dire aussi quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. RFI Echo.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Et c'est donc l'heure de notre grand invité, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bonjour Franck Grimaud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Valneva, laboratoire franco-autrichien en course pour un vaccin contre le Covid-19. Un bref portrait de votre groupe de biotechnologie, né à l'origine près de Nantes, dans l'ouest de la France, en 1999. C'est là d'où vous nous parlez. En 2013, vous avez fusionné avec une société autrichienne votre spécialité, les vaccins pour les voyageurs, contre le choléra notamment, ou contre l'encéphalite japonaise. Valneva, plusieurs centaines de salariés dans au moins 9 pays, cotés au Nasdaq depuis le mois de mai dernier. Et vous êtes donc, comme d'autres, à la recherche d'un vaccin contre cette fameuse pandémie. Les essais, nous dites-vous, sont à un stade avancé. Vous avez d'ailleurs lancé une demande d'autorisation de mise sur le marché, en l'occurrence le marché britannique, c'est ça ?
C'est bien ça. Voilà, nous avons lancé la phase finale, qui est une phase 3, donc en avril dernier. L'ensemble des 4000 sujets ont été déjà recrutés. Et puis, on espère donc pouvoir annoncer des résultats au début du quatrième trimestre, avec un enregistrement attendu au Royaume-Uni avant la fin de l'année, et puis en Europe sur le premier semestre 2022.
Donc ça veut dire être sur le marché, pouvoir vendre vos vaccins dès le début de l'année prochaine ?
Même dès au Royaume-Uni, dès la fin de cette année, effectivement, dans d'autres pays, dont l'Europe, en début d'année prochaine.
Votre technologie, c'est un vaccin à virus désactivé. Qu'est-ce que ça signifie ?
En fait, il s'agit de prendre les virus qui provoquent l'infection, de les inactiver avec donc un procédé chimique, mais tout en gardant l'enveloppe de ce virus la plus intacte possible, pour que quand on va l'injecter, elle entraîne la production d'anticorps le plus varié possible et le plus nombreux possible, pour qu'ensuite le vaccin soit le plus efficace possible.
Donc le vaccin Valneva est différent de ceux à ARN messager dont on parle tant et qui sont tant critiqués par les réticents au vaccin.
Oui, donc c'est très, effectivement, c'est une technologie très très différente. Quand on a démarré cette course, hein, au premier trimestre 2020, personne ne savait quel vaccin allait réussir et quel vaccin n'allait pas réussir. Et c'est la raison pour laquelle, de notre côté, on a choisi, puisque personne ne proposait cette technologie en Europe ou aux États-Unis, de partir sur cette technologie vaccin inactivé, en nous disant que ce serait un outil complémentaire pour les autorités de santé. Mmh.
Ce vaccin, pour le moment, vous le présentez comme efficace à 80%. C'est moins que les ARN messagers comme ceux de Pfizer, BioNTech ou Moderna. Eux, c'est 95%.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt ou la qualité d'un vaccin, c'est à la fois son efficacité immédiate, mais aussi son efficacité dans la durée. Et enfin, troisième élément, son innocuité, hein, le fait que ça provoque le moins d'effets secondaires. Donc, de ce point de vue-là, on pense que on doit avoir, si les résultats finaux le démontrent, on doit avoir un vaccin qui apporte un mixte très intéressant.
Alors justement, en attendant, Franck Grimaud, votre groupe multiplie les tests pour prouver l'efficacité du vaccin Valneva. Et c'est le cas à Nelson, en Nouvelle-Zélande, où se trouve notre correspondant Richard Tindiller.
Dans la clinique Sarven Tasman de Nelson, une centaine de patients reçoivent aujourd'hui leur deuxième injection du VLA-2001. Pour Karen, qui participe à ces tests, sa démarche doit avant tout aider la science.
Je pense que c'est bien de le faire. En pleine pandémie, essayer un vaccin qui pourrait aider à la contrôler ou la contenir, ou même peut-être l'éradiquer complètement.
Testé sur plus de 4000 personnes en Europe, le vaccin franco-autrichien a dû délocaliser ses tests hors du vieux continent, où 70% des adultes sont désormais immunisés face au Covid-19. Pour le directeur de la clinique Tristan Riley, les bonnes conditions de la Nouvelle-Zélande face à la crise sanitaire favorisent ce genre d'essai.
Pour que les tests soient un succès, nous avons besoin de personnes qui n'ont pas encore été contaminées, mais aussi qui n'ont pas été vaccinées. Et la Nouvelle-Zélande remplit ces deux critères.
Si les tests sont concluants, les autorités sanitaires pourraient commander les premières doses de ce vaccin Valneva d'ici la fin de l'année. Richard Tindiller à Nelson, RFI.
Franck Grimaud, directeur général de Valneva, on vous retrouve. Vous les attendez, j'imagine, avec impatience les résultats de ces tests?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir quand on développe un vaccin, on a toute une batterie d'essais qui sont menés pour avoir une application le plus large possible. Aujourd'hui, il y a donc un essai final de phase 3 qui est mené aux États-Unis, l'essai de Nouvelle-Zélande dont vous venez de parler. Également, on va avoir des essais pour avoir l'autorisation d'usage pour les adolescents, puis les enfants. Nous avons en cours également, nous participons au premier essai mondial sur les rappels, hein, où en fait, aux côtés de vaccins comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca, notre vaccin est également testé en rappel après une vaccination avec notre propre vaccin, mais aussi testé en rappel sur des personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Pfizer ou AstraZeneca. Bref, on a toute une batterie d'essais en cours dont on aura les résultats, voilà, à partir du quatrième trimestre, mais aussi courant 2022. Et on espère que si ces résultats sont bons, on aura un usage de notre vaccin le plus large possible pour les populations les plus larges possibles.
Quels sont vos marchés potentiels dans le monde? Est-ce que vous visez, par exemple, les pays qui ont du mal à se fournir en vaccins, les pays moins développés?
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on se focalise sur l'Europe et le Royaume-Uni, mais on a déjà des discussions avec des pays en dehors de ces zones-là.
Lesquels, par exemple?
Alors, je peux pas les mentionner, mais disons en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mm-hmm. hein, pour donner ces zones. Et l'un des intérêts de notre vaccin, c'est qu'il est stockable à des températures de 4 à 8 degrés, comme voilà tous les vaccins inactivés. Et ce type de matériel est présent chez tous les un frigo, hein, est présent chez tous les médecins ou les pharmacies. Donc pour des pays comme l'Afrique par exemple, évidemment c'est un usage beaucoup plus facile.
Les inégalités vaccinales, ce débat depuis plusieurs mois, cette indignation contre ces inégalités, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que fabricant?
Voilà. Alors je pense que c'est un problème qui va être réglé rapidement. De la même manière, en Europe, aux États-Unis, en début d'année, on parlait de la livraison de vaccins, des retards, etc. Et maintenant, depuis juin, juillet, il n'y a plus de sujets. Les livraisons arrivent très rapidement. Je pense que ce problème de phasage de livraison, même chose dans quelques mois, on devrait en fait avoir ce sujet derrière nous.
Vous êtes optimiste. À quel prix vous allez vendre vos vaccins, justement, dans les pays moins développés? Vous allez les vendre à prix coûtant ou au prix du marché?
Alors, de ce côté-là, donc on n'a pas livré, hein, on n'a pas communiqué de prix. Il faut savoir que la fabrication d'un vaccin comme le nôtre est un processus qui est assez cher. Donc, ce qui fait que notre marché principal se situe dans les pays comme l'Europe ou les États-Unis. On a, comme je vous l'indiquais, un certain nombre de discussions avec des pays tiers, mais on réfléchit aussi à la possibilité de travailler avec des fabricants, par exemple en Inde ou au Brésil. On a déjà des partenariats établis pour d'autres vaccins, pour éventuellement pouvoir produire le même type de vaccin, mais à plus bas coût. Mmh. Hein, et justement le rendre accessible aussi à un certain nombre de pays qu'on ne pourrait pas livrer depuis notre usine de Livingston, par exemple.
Franck Grimaud, le titre Valneva bat des records en bourse. Vous êtes donc coté au Nasdaq à New York. Les investisseurs ont confiance, manifestement, en l'avenir des laboratoires.
Oui, c'est vrai que en ce moment, on va dire l'industrie du vaccin a le vent en poupe parce qu'on voit que le vaccin est un élément essentiel des systèmes de santé à travers le monde. Il se trouve aussi que au-delà du vaccin Covid, On a, par exemple, le premier vaccin chikungunya qui a fait l'ensemble du processus et on a annoncé les résultats il y a quelques semaines. Et donc, on sera probablement le premier au monde à proposer un vaccin contre le chikungunya. Vous savez, qui est une maladie qui est transmise par les moustiques et qui est présent quasiment dans tout l'hémisphère sud.
Et notamment, oui, en Asie, en Afrique.
Exactement, aux Caraïbes, Amérique latine également, hein, de manière importante. Et puis, on a également, donc, on est le premier et le seul en développement clinique de phase 2. On va passer en phase 3. On a un partenariat avec Pfizer sur la maladie de Lyme, hein, qui est une maladie qui est transmise par les tiques et très présente en Europe et aux États-Unis, en Russie également. Mmh. Et donc, tous ces éléments font que, aujourd'hui, effectivement, on a une confiance des investisseurs. Alors tout ça, qu'on va continuer à dépendre de nos résultats cliniques et donc on espère que les choses vont continuer positivement.
Et c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. On vient de voir par exemple que Johnson & Johnson, qui travaillait sur un vaccin contre le sida, abandonne ses recherches dans ce domaine-là. Vous y croyez, vous, un jour, à un vaccin contre le sida ?
Alors c'est un sujet effectivement extrêmement difficile. L'industrie du vaccin travaille depuis 25 à 30 ans pour développer un vaccin. C'est un sujet extrêmement compliqué. Alors qu'il y a eu des milliards et des milliards d'investis à la fois par le public et par l'industrie également privée, personne n'a réussi à ce jour à développer un vaccin qui soit suffisamment efficace, au moins supérieur à 50%, même si aujourd'hui il faut viser 80% et plus. Donc il y a encore certains sujets sur lequel on n'a pas trouvé les réponses au niveau scientifique, technique, technologique. Et le vaccin sida est vraiment un sujet compliqué, oui. Donc pour l'instant, les recherches continuent.
Dernière question avant de vous quitter, Franck Grimaud. Comment est-ce que vous voyez le monde dans ces prochains mois, dans ces prochaines années ? Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça, sous cette menace sanitaire ? Alors maintenant c'est le Covid, il y aura peut-être d'autres maladies, avec toutes les conséquences économiques et sociales que ça implique.
En ce qui concerne le Covid, j'espère maintenant qu'avec l'ensemble de la batterie de vaccins qui est disponible, on va pouvoir, en ayant des taux de vaccination dans les pays suffisamment hauts, hein, pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective, on devrait pouvoir avoir ce virus sous contrôle, comme aujourd'hui on vit avec la grippe, hein, vous le savez, chaque année il y a des contaminations, chaque année on en parle sans doute un peu moins, on a aussi des décès suite à une contamination avec la grippe, mais c'est sous contrôle, donc on va passer dans cette phase-là. Ayant dit cela, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux virus émergents, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a maintenant à disposition des technologies et des outils de production qui permettent de réagir quand même très très vite. Bon, et puis on peut quand même penser qu'on n'aura pas une crise comme celle du Covid, régulièrement, fréquemment. Hein. Ce sont quand même, on peut le penser, des événements exceptionnels.
Et cette pandémie a sans doute réveillé des consciences. Merci. Merci mille fois à vous, Franck Grimaud, d'avoir été le premier grand invité de cette nouvelle formule d'Écho d'ici et Écho d'ailleurs. Bonne chance à votre vaccin. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission, à Alexis Bédu qui m'a aidé à la préparer. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à chaque fois sur le compte RFI Echo, en deux mots, RFI Echo. Vous commentez, vous posez des questions et on tentera d'y répondre. Bonne journée ou bonne soirée sur la Radio Mondiale.
Echo d'ici, Echo d'ailleurs, sur RFI.